C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de ces marques qui jouent la rareté et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Adjan Chellil.
Salut Thibaut, comment tu vas ce matin?
Je suis en pleine forme.
Eh ben écoute, moi aussi, je suis très content de parler de ce sujet puisque c'est, je trouve, un vrai indicateur de comment fonctionne aujourd'hui notre économie, surtout au niveau de la mode, et ça se développe maintenant aussi sur d'autres points économiques. Ouais. Donc on va rentrer dans le détail de tout ça. La rareté, c'est assez cool en ce moment à jouer.
Des sneakers, des bagnoles, des boissons, des jeux vidéo, de la mode, etc. Les productions en édition limitée, elles se multiplient comme des petits pains et elles n'épargnent aujourd'hui aucun secteur d'activité. Evian, qui commercialise une série unique de bouteilles designées par Virgil Abloh. Ouais. Volkswagen, qui propose une New Beetle édition limitée Lipton Ice Tea. Je te jure que ça a existé. Hein.
Ça m'étonne pas, parce que déjà la bouteille Evian Virgil Abloh, je vais vous faire une confidence, j'ai découvert il y a 3 semaines que c'était la carafe d'eau de ma mère. Voilà, je vous le dis, peut-être que, voilà, peut-être que je suis riche, peut-être que j'ai pas rien à faire ici, je ne sais pas.
Les équipes marketing redoublent d'imagination pour faire de leurs produits des denrées rares et et convoité, hein, c'est ça l'objet. Et du coup, alors que la course à l'attention continue de battre son plein sur les réseaux sociaux, eh ben nous sommes entrés dans une ère généralisée de la drop culture. On va en parler de la drop culture. Ne bougez pas, on vous explique tout ça.
On vous explique tout ça, c'est une tendance énorme qui est arrivée quand même déjà depuis quelques années, hein. C'est pas tout nouveau, mais on sent qu'au fur et à mesure du temps, ça se développe, ça passe de secteur économique à secteur économique. Et aujourd'hui, bah, on va s'intéresser à ces marques qui ont décidé de jouer la rareté sur leurs produits pour créer presque des cotes, hein, des cours de prix de leurs produits. C'est assez fou. On a tous vu devant des magasins de sneakers, hein, quand on vient par exemple au boulot. Moi, je sais que je passe devant des magasins Nike, il y a un magasin de basket juste en bas aussi là du bureau, et on voit des fois le matin à 7h30 des jeunes qui voient rarement le matin à 7h30 et qui là font la queue devant des magasins et on se dit mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont 50 là à attendre devant Nike,
pourquoi? Bah peut-être parce que la rareté, ça crée le désir, le marketing de rareté, c'est un classique, hein. C'est basé sur la crainte des consommateurs de perdre leur liberté de choix. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi les gamins ils font la queue devant les magasins de basket, c'est que le choix, il est maintenant, à l'intérieur du magasin, maintenant. Il faut que j'y sois. Après, j'aurais perdu ma liberté de choix.
Est-ce qu'on pourrait pas parler de FOMO, carrément?
Bah, carrément,
de
pourquoi pas,
fear
ouais.
Of missing out. C'est ce qui fait que, par exemple, quand tous vos potes partent en soirée et que vous êtes chez vous et que vous n'avez pas envie de sortir du tout, mais au fond de vous, il y a une petite voix qui vous dit « Ah, je suis en train de rater quelque chose, il faut que j'y aille. » Et bah, c'est un peu la même chose là avec ces éditions limitées. C'est que vous avez une paire de baskets qui sort ou alors une bouteille de quelque chose avec une collaboration ou ce que vous voulez. Et vous vous dites « Si j'y vais pas ce matin, elle va me passer sous le nez, je l'aurai jamais cette paire, j'aurai jamais cette bouteille, j'aurai jamais ce produit-là, cet article. » Et là, il y a ce fear of missing out qui vous ronge de l'intérieur et qui fait bah, que vous vous levez à 6h et que vous allez faire la queue, hein, comme tout le monde.
Ouais, donc ça, il y a le sujet de la limite de temps. Et puis, il y a aussi quelque chose de très intéressant. Et je suis tombé sur cette étude, qui est une vieille étude, hein, qui a été faite en 1966 par Jack Brehm. C'est un psychologue américain. C'est pas Jacques Brel, c'est Jack Brehm. Attention.
C'est son frère.
Voilà. Et lui, ce qu'il dit, c'est que si un produit ou un service n'est pas facilement disponible, eh bien, du coup, il devient plus attrayant. Et alors, il a fait une étude très intéressante. Il a placé dans une grande pièce 2 jouets pour enfants. Et les jouets sont exactement les mêmes. Ils sont identiques. Et puis, il y en a un qui est en libre accès et l'autre, il est derrière une barrière en plexiglas. C'est-à-dire qu'il est visible, mais il y a une barrière en plexiglas et il faut contourner cette petite barrière pour accéder aux jouets. Et du coup, il a laissé des enfants accéder à cette pièce pour voir ce qui se passait. Eh bien, comme par hasard, évidemment, parce que nous, on est comme ça, les êtres humains, eh ben, on va là où c'est le moins facile. Ils sont tous allés vers le jouet. Ils sont tous allés vers le jouet qui était le plus désirable, c'est-à-dire celui qui était derrière la barrière.
Ah, c'est quasiment de l'inné, quoi. C'est quasiment ancré en nous depuis qu'on est tout petit. Moi, j'ai comparé ça un peu au club privé, tu sais. C'est une ambiance un peu de club privé. Tu veux avoir un article que personne d'autre peut avoir. Toi, tu le veux. Et parce que tu as envie de te sentir à part. Tu as envie de faire partie partie de ce club privé qui a cette paire de baskets-là ou de ce club privé qui a cette collab entre deux marques. Et c'est un peu comme quand tu peux pas rentrer quelque part. Il y a un club qui est ultra sélectif, qui est privé, où il faut une carte d'adhérent ou quelque chose. Pas forcément, ça donne envie d'y aller. T'as envie de faire partie de ce club. Pourquoi toi, t'aurais pas le droit de faire partie de ce club? Tu vois, c'est un peu cette idée-là aussi. Pourquoi j'aurais pas le droit d'avoir ça?
T'as raison. Et puis la série limitée, t'as raison, ça joue sur la notion d'exclusivité, hein, c'est ce que tu dis. Et puis aussi sur les comportements de collection. Hein, on a tous un collectionneur ou une collectionneuse qui est au fond de nous. Il y a aussi ça que tu vas chercher. Et alors aujourd'hui, ces séries limitées, comme tu l'as dit, elles sont utilisées depuis longtemps dans un certain nombre de secteurs. En automobile, on sait par exemple que les éditions limitées Roland Garros sur les 205, etc. C'est un grand classique. Ça a toujours existé. Et dans le luxe, mais petit à petit, c'est en train de devenir davantage sur des sujets de grande consommation. On en voit même dans les forfaits mobiles en édition limitée. C'est devenu assez dingue. C'est un argument marketing puissant. Et au milieu, les kings, je vais dire, de la série limitée, vraiment ceux qui se sont vraiment fait un nom là-dessus. Il y a une marque, de prêt-à-porter, du coup, de luxe, qui s'appelle Supreme.
Eh oui, Supreme, c'est un peu la marque qui a lancé cette idée. Alors, il y en a peut-être qui l'ont fait avant, mais c'est la marque la plus connue aujourd'hui internationalement qui a lancé cette idée des éditions limitées. Pourtant, la marque Supreme, au départ, elle est fondée en 1994 à New York, donc ça date un petit peu. À l'époque, c'est une marque qui est connue que de la part des skateurs dans un quartier, le quartier de Soho à New York. C'est un petit magasin et puis c'est un business model qui s'est infiltré à travers les frontières du luxe, les frontières de l'art pour devenir une marque internationale. Et comment ils ont réussi leur coup? La marque a quasiment inventé le système qui aujourd'hui est largement copié un peu de partout. Chaque jeudi, en fait, Supreme présente un nombre ultra limité d'articles qui créent une rareté et une frustration chez les consommateurs. Donc, il y a des petites collabs qui sortent entre Supreme et d'autres marques aussi. Mais il y a ce côté tous les jeudis. Tu sais que si tu vas chez Supreme, tu vas avoir une édition limitée qui sort avec vraiment un tout petit peu d'articles, une toute petite partie des personnes vont arriver à dropper ces articles-là. Et qu'est-ce qui se passe? Ça crée aussi un marché parallèle, tout ça. C'est-à-dire que comme c'est en tout petite quantité, les individus qui arrivent à choper un article de Supreme qui vient de sortir d'une collab qui va sûrement coter dans les prochains mois... Parfois, c'est même pas à leur taille. Parfois, c'est même pas pour eux. Ils en ont rien à faire. Ils veulent pas les porter. Ils veulent les revendre dans 6 mois. Donc là, il y a quelque chose de très intéressant. Et après, Supreme, dans les collaborations de marques, pour encore augmenter cette rareté, c'est Louis Vuitton, c'est Lacoste, c'est Nike, etc., etc. Il y a même des créateurs aussi de mode, de mode de luxe. Il y a Yohji Yamamoto, je crois, qui a collaboré avec eux. Donc, Supreme, c'est énorme. Sur Facebook, c'est 2,2 millions d'abonnés. Dernièrement, ils ont par exemple présenté leur collab avec Vans. Ils ont sorti une collab de basket avec Vans, donc toujours dans cette idée de choses exceptionnelles. Et puis sur Instagram, c'est 13,5 millions de fans. Et là, de ce côté-là, moi j'aime bien les Reels parce que Supreme, c'est une marque qui a été rachetée, je sais plus, il y a 4 ou 5 ans, truc comme ça, 4 ans. Et pourtant, ils essayent quand même de recoller un petit peu à leur image d'origine. Et donc dans leurs Reels, t'as un petit peu tout le côté skate de la marque qui est remis en avant avec des skateurs et skateuses qui sont filmés dans leur ville en train de skater en Supreme. Et puis, tu as aussi des mises en situation d'articles un peu particuliers de Supreme, comme une batte de baseball ou un mini-frigo. Je trouve ça assez drôle d'avoir des produits un peu dérivés mis en avant comme ça. Moi, ça
Est-ce qu'il y a les fameux Oreo Supreme?
Ouais, il y avait aussi la collab avec Oreo, t'as raison.
Ouais, eux, c'est vraiment, ils se sont faits là-dessus, sont les boss. Et alors, tu parlais de ces kids qui spéculent sur le prix des produits et notamment vont acheter des trucs qui ne sont pas à leur taille. C'est pas pour eux, c'est pour la pure spéculation sur ces éditions limitées. Récemment, j'ai découvert qu'il y avait un nom là-dessus, on les appelle les scalpers. Voilà.
Ok,
ils font du scalping. En gros, effectivement, ils rachètent massivement, ce qui pose des problèmes à certaines marques, notamment, tu vois, sur la PS5, par exemple. La sortie de la PS5, elle s'est fait complètement massacrer par ces scalpers qui ont acheté globalement des stocks et après, les ont revendus plus cher.
Ils savaient qu'il allait y avoir une pénurie aussi de stocks.
Et que l'édition était limitée.
Si PlayStation sortait des PlayStation partout en France aujourd'hui, la PlayStation ne coterait pas du tout.
Ouais, et ça, tout ce dont on parle là, t'as lâché le mot tout à l'heure, t'as parlé de drop,
c'est cette drop culture
et cette drop culture, elle s'impose bien au-delà de la mode. Qu'est-ce que c'est une drop? C'est ce que font toutes ces marques de streetwear, mais aussi les grands noms du luxe, Louis Vuitton, etc. Le principe du drop, c'est une technique qui consiste à commercialiser des produits exclusifs en toute petite quantité, presque sans avertissement préalable. C'est-à-dire, boum, ça tombe comme ça, tel jour, boum, il y aura un truc, tu sais pas ce que c'est avant. Il n'y a pas forcément de teasing sur la réalité du produit. Il y a un teasing sur la date. Il y a un truc save the date, mais il y a pas le produit. Et puis c'est vendu aussi dans un certain nombre de points de vente sélectionnés. Ouais. Et résultat, cette mécanique, elle marche, c'est carton systématique. On est vraiment entré dans une ère du drop, hein, comme on dit. Et d'un point de vue marketing, ces produits ultra demandés, c'est un moyen pour les marques intéressantes de booster d'une la valeur perçue d'un bien de consommation assez lambda, hein, parce que finalement, d'un coup, ton bien prend de la valeur, c'est celui de la rareté.
Ouais, bien sûr.
Et puis aussi, c'est un puissant relais de storytelling. Ça permet d'attirer l'attention et ça permet évidemment, dans le cas suprême, d'animer très fortement ta présence social media.
Ah bah oui, c'est clair. Et puis, il y a un vrai business derrière. Et aujourd'hui, pour rester un peu dans le social media, on retrouve des conversations, par exemple, sur Discord qui sont accessibles avec des abonnements payants entre 25 et 50 euros pour connaître quels sont les drops qui vont prendre de la valeur, etc. Parce qu'il y a un vrai cours et tu peux aussi te retrouver à acheter des choses qui vont pas du tout coter et au final, tu n'arriveras pas à les revendre plus cher ou tu les revendras même moins cher, tu perdras de l'argent avec. Donc, tu as des spécialistes dans des conversations Discord qui vont t'expliquer que c'est telle paire de baskets qu'il faut absolument que tu arrives à avoir telle date et que là, il y a un drop suprême à telle heure, tel jour et qu'il faut choper le sweatshirt en collab avec Louis Vuitton ou je sais pas qui, etc. etc.
Ouais, alors là, on parle de drop culture dans la mode, mais c'est vrai que ça va bien au-delà maintenant. On pourrait parler notamment de ce cas de Perrier. Hein. Perrier qui a travaillé depuis longtemps hein, ce format de l'édition limitée. Et qui sort ses bouteilles d'eau, du coup, en édition limitée. C'est aussi bête que ça. Et là, ils viennent de sortir une collaboration avec l'artiste japonais Murakami. Okay. Tu sais, ce bonhomme qui, enfin, ce japonais qui fait des trucs avec des petits soleils, des petits bonhommes super souriants, très kawaii à la japonaise. Et là, c'est vachement bien fait. Allez jeter un coup d'œil sur le compte Instagram de Perrier, un Perrier FR sur Instagram. On vous met les notes en lien de cet épisode. C'est, il y a tout ce qu'il faut ici pour faire une activation social media de qualité. Il y a cette édition limitée. Et là, tu sens quand même tout à fait que c'est un alibi de brand content aussi.
Bien
c'est
sûr.
Un alibi de prise de parole de marque. Ça permet de créer un temps fort.
Exact. Il y a un temps fort qui naît quand on fait une collaboration comme ça, quand il faut l'annoncer, du coup, c'est un temps fort de marque, une innovation, quelque chose qu'on va sortir, dont on va parler pendant quelques semaines.
Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on trouve pour que ça marche? Des produits en édition limitée. Hein, donc, c'est les canettes et les bouteilles qui sont siglées avec les créas du japonais Murakami.
Yes.
On trouve du contenu social media de qualité. Allez jeter un petit coup d'œil dans les highlight stories. Vous verrez, il y a une highlight story très cool où on voit Murakami qui explique ce qu'il a créé, pourquoi il l'a créé, pourquoi il a inventé des petits personnages comme ça, quel lien ça avec la marque.
Ah, c'est très
et
cool,
puis
ça.
Ils sont allés jusqu'à cette activation in real life et ça c'est là où l'active elle boucle la boucle, c'est que ils ont créé une exposition dans une galerie parisienne où tu peux retrouver toutes les
énorme.
Canettes et les bouteilles et puis aussi les dessins originaux de Murakami et aller voir à quoi ça ressemble. Donc ça c'est en highlight story sur Instagram, jetez un coup d'œil parce que c'est très très intéressant. La marque même joue même le code du drop, hein, là on parle de drop culture, du drop à fond, puisque si tu vas sur leur site dédié, eh bien, tu vas trouver la liste des points de vente dans lesquels ces produits sont disponibles, ce qui est assez drôle, parce qu'au milieu, tu as le Monoprix, les Monoprix un peu chic et tout, et puis tu as aussi Carrefour Vénitieux. Voilà,
ouais, mais je trouve ça ultra intéressant, parce que tu vois, ça permet de vraiment faire des liens entre le monde de l'industrie un peu, et puis le monde artistique. Là, on est clairement dans un lien entre industrie et artistique qui n'aurait peut-être jamais existé sans ces idées d'édition limitée, de collaboration, et c'est des choses qu'on retrouve c'est dans d'autres secteurs, tu vois, ça vient de me frapper quand tu parlais de ça, mais dans par exemple le secteur du vin, hein, où tu as dans tout le pan du vin naturel, etc., des illustrateurs, des artistes qui vont travailler avec des vignerons pour faire des étiquettes originales, et ça permet d'avoir des crossovers qui sont assez inattendus et intéressants.
Ça permet deux choses encore, booster la valeur perçue,
bien sûr,
et puis rapporter du storytelling.
Exactement.
Une fois que tu as ça, tu as quand même autant d'ingrédients
t'as
qui sont juste parfaits pour nourrir ta prise de parole de marque sur les réseaux sociaux.
C'est clair.
Ce qui est, juste un petit mot avant qu'on, parce que je sais que tu veux qu'on parle de plateforme, plateforme de trading, hein, quasiment.
Quasi.
Du coup, peut-être que sur ces plateformes-là, on peut tomber sur ce jogging qui a fait beaucoup de buzz il y a 2 ans. C'est même fort possible. Le Jog 85. Est-ce que tu te souviens de ce Jog 85?
Ils ont ressorti, ça.
Eh bien, c'est Decathlon qui avait sorti son jogging anniversaire en édition limitée. C'était il y a 2 ans. Les équipes social media.
On a fait un épisode dessus.
On a fait carrément un épisode. On essaiera de vous le mettre en note de cet épisode pour que vous alliez l'écouter. Il y a deux ans, les équipes social media de Decathlon signaient pour moi ce qui reste aujourd'hui un coup de génie hein, avec leur opération Jog 85. Ils avaient rebondi sur la demande de nombreux tweetos pour rééditer un vieux jogging objectivement pas très beau en coton avec pas marqué si Decathlon sur le côté, pas si ouf. Et ils se sont dit ok vas-y c'est bon, on le réédite, une édition limitée à 1000 exemplaires, mise en vente là aussi au format drop, hein, pur et dur, bien monté, petit teasing avant, compte à rebours, etc.
Propre.
Et résultat des courses, sold out en 30 secondes,
eh oui.
À la clé plantage évidemment du site Decathlon, énorme coup. Et là aujourd'hui, ils réitèrent avec plusieurs produits, ils ont réitéré avec cette fois-ci la réédition d'une vieille édition limitée de chaussures, avec à la clé eh bien, opération d'influence marketing,
bien.
Unboxing sur YouTube, idem, sold out en quelques minutes. Et puis là, tu m'as dit à peine tout à l'heure qu'ils travaillaient
sur un bob.
Ouais,
j'ai vu des photos passer là d'un bob Decathlon, à mon avis, ça va être exactement la même chose.
Et sans doute qu'il sera idem distribué sur la même logique d'édition limitée, ce qui permet d'augmenter encore une fois la valeur perçue. Parce que s'ils en vendent 600 000, 1 million de ce bob, bah, il n'a pas la même valeur que quand on a 1000.
Ah oui, bah non, forcément, quand c'est beaucoup plus dur d'en attraper un, bah tu peux le vendre un petit peu plus cher. Ça me fait penser aussi, alors qu'ils après sont pas allés au bout de cette démarche, mais à Lidl, hein, qui avait sorti les claquettes Lidl, etc.
Totalement.
C'était dans la même idée un peu que Decathlon. Derrière, par contre, Lidl a fini par sortir ça plus largement. Et il y a beaucoup de marques qui jouent là-dessus maintenant. Et tout à l'heure, tu parlais de la PlayStation 5, où ils vont sortir d'abord.
Créer la rareté immédiate.
Créer la rareté immédiate pendant peut-être 6 mois, 1 an, et puis après, au bout d'un an, là, ça y est. Ils lâchent les stocks et ils ouvrent à tout le monde. Mais pendant un an, ça leur a permis de jouer comme ça.
Une fois que la jauge de désir est au max, boum, ok, on ouvre les vannes, allez-y, claquez votre truc.
Est-ce qu'on parle un petit peu plateforme?
Mais carrément, vas-y.
Alors, plateforme, pour finir, il y a une plateforme pour les sneakers qui s'appelle StockX, hein, où on retrouve tout le marché de la basket, entre guillemets, de seconde main, même si souvent elles sont neuves et dans la boîte et est complètement fermée. C'est la plateforme où on peut trouver toutes les baskets qui commencent à côté. C'est assez incroyable.
Est-ce que c'est un peu le Boursorama de la sneakers?
Le Boursorama de la sneakers. La plateforme, elle est valorisée quand même, tiens-toi bien, Thibaut, à 3,8 milliards de dollars avec environ 25 millions de visites mensuelles sur le site StockX. Donc, si vous êtes fan de basket, vous devez forcément connaître, ou alors je vous invite vraiment à aller voir là-bas. Il y a plein de jolies paires à trouver. Et puis après, il y a tout le marché de la seconde main qui s'est développé. Alors, on a fait un épisode sur l'upcycling il n'y a pas longtemps. C'est marrant parce que c'est à la fois à moitié sur l'upcycling et en même temps sur aussi des vêtements qui peuvent coter. Donc, il y a Vinted hein, qui est très très connu aujourd'hui. On retrouve cette plateforme un peu partout en France aujourd'hui. C'est une plateforme que beaucoup de monde utilise. Il y a 16 millions d'utilisateurs et il y a un chiffre d'affaires qui est en hausse de 4 millions entre 2019 et 2020. Et là, pour le coup, à la base, c'est censé, chacun peut faire son petit commerce, quoi. Tu revends ce que tu mets plus sur la plateforme et qui est encore en bon état. Tu donnes une seconde vie à tes vêtements. Sauf que, forcément, ça se transforme aussi en j'ai acheté cette super paire de baskets, je la garde un peu là,
limitée.
En édition limitée et je la vends sur Vinted. Après deux fois plus cher. Et je fais grimper aussi l'attraction autour de mon petit commerce, mon petit e-commerce sur Vinted pour avoir de plus en plus de visiteurs et vendre ça de plus en plus cher. Donc ça impacte comme ça aussi même les plateformes et les sites qui commencent à découler de cette mode-là.
Quel monde!
Dans quel monde on vit?
Dans quel monde vit-on? C'est ouf tout ça. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire sur les éditions limitées. C'est une mécanique qui marche à tous les coups. Peut-être que ça peut vous donner des idées. Vous travaillez sur une marque, là,
grave.
De réfléchir à ces mécaniques qui derrière sont ultra cool à décliner en social media.
Et puis surtout si vous connaissez des marques hein, qui utilisent ce plan marketing, ce plan business dont on n'aurait pas parlé aujourd'hui, venez nous en parler sur les réseaux sociaux. On en discute à Supernatif sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Et puis vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast, alors n'hésitez pas à laisser nous une petite note, un commentaire, ou alors surtout parlez-en autour de vous.
Yes, merci à vous tous, on vous souhaite un très très bon week-end et on vous donne rendez-vous à lundi 9h du mat. Salut tout le monde.
Allez, ciao.